Chapitre 25 Mort de Jésus. Bien que le motif réel de la mort de Jésus fût tout religieux, ses ennemis avaient réussi, au prétoire, à le présenter comme coupable de crimes d'État. Ils n'eussent pas obtenu du sceptique Pilate une condamnation pour cause d'hétérodoxie. Conséquence à cette idée, les prêtres firent demander pour Jésus, par la foule, le supplice de la croix. Ce supplice n'était pas juif d'origine. Si la condamnation de Jésus eût été purement mosaïque, on lui eût appliqué la lapidation. La croix était un supplice romain, réservé pour les esclaves et pour les cas où on voulait ajouter à la mort l'aggravation de l'ignominie. En appliquant à Jésus, on le traitait comme les voleurs du grand chemin, les brigands, les bandits, ou comme ces ennemis de bas étage auxquels les Romains n'accordaient pas les honneurs de la mort par le glaive. C'était le chimérique roi des Juifs, non le dogmatiste hétérodoxe, que l'on punissait. Par suite de la même idée, l'exécution dut être abandonnée aux Romains. On sait que, chez les Romains, les soldats, comme ayant pour métier de tuer, faisaient l'office de bourreau. Jésus fut donc livré à une cohorte de troupes auxiliaires, et tout l'odieux des supplices introduits par les mœurs cruelles des nouveaux conquérants se déroba pour lui. Il était environ midi. On le revêtit de ses habits qu'on lui avait ôtés pour la parade de la tribune, et comme la cohorte avait déjà en réserve deux voleurs qu'elle devait exécuter, on réunit les trois condamnés et le cortège se mit en marche pour le lieu de l'exécution. Ce lieu était un endroit nommé Golgotha, situé hors de Jérusalem, mais près des murs de la ville. Le nom de Golgotha signifie « crâne ». Il correspond, ce semble, à notre mot « chaumont » et désignait probablement un tertre dénudé, ayant la forme d'un crâne chauve. On ne sait pas avec exactitude l'emplacement de ce tertre. Il était sûrement au nord ou au nord-ouest de la ville, dans la haute plaine inégale qui s'étend entre les murs et les deux vallées de Cédron et de Homam, région assez vulgaire, attristée encore par les fâcheux détails du voisinage d'une grande cité. Il est difficile de placer le Golgotha à l'endroit précis où, depuis Constantin, la chrétienté tout entière l'a vénéré. Cet endroit est trop engagé dans l'intérieur de la ville, et on est porté à croire que l'époque de Jésus, il était compris dans l'enceinte des murs. Le condamné à la croix devait porter lui-même l'instrument de son supplice. Mais Jésus, plus faible de corps que ses deux compagnons, ne put porter la sienne. L'escouade rencontra un certain Simon de Cyrène, qui revenait de la campagne, et les soldats, avec les brusques précédés des garnisons étrangères, le forcèrent de porter l'arbre fatal. Peut-être usèrent-ils en cela d'un droit de corvée reconnu, les Romains ne pouvant se charger eux-mêmes du bois infâme. Il semble que Simon fut plus tard de la communauté chrétienne. Ses deux fils, Alexandre et Rufus, y étaient fort connus. Il raconta peut-être plus d'une circonstance dont il avait été témoin. Aucun disciple n'était à ce moment auprès de Jésus. On arriva enfin à la place des exécutions. Selon l'usage juif, on offrit à boire aux patients un vin fortement aromatisé, boisson enivrante, que par un sentiment de pitié on donnait aux condamnés pour l'étourdir. Il paraît que souvent les dames de Jérusalem apportaient elles-mêmes aux infortunés qu'on menait au supplice ce vin de la dernière heure. Et quand aucune d'elles ne se présentait, on l'achetait sur les fonds de la caisse publique. Jésus, après effleurer le vase du bout des lèvres, refusa de boire. Ce triste soulagement des condamnés vulgaires n'allait pas à sa haute nature. Il préféra quitter la vie dans la parfaite clarté de son esprit et attendre avec une pleine conscience la mort qu'il avait voulu et appelé. On le dépouilla alors de ses vêtements et on l'attacha à la croix. La croix se composait de deux poutres liées en forme de T. Elle était peu élevée, si bien que les pieds du condamné touchaient presque à terre. On commençait par la dresser, puis on y attachait le patient en lui enfonçant des clous dans les mains. Les pieds étaient souvent cloutés, quelquefois seulement liés avec des cordes. Un billot de bois, sorte d'antenne, était attaché au fût de croix vers le milieu et passait entre les jambes du condamné, qui s'appuyait dessus. Sans cela, les mains se fussent déchirées et le corps se fût affaissé. D'autres fois, une tablette horizontale était fixée à la hauteur des pieds et le soutenait. Jésus savoura ces horreurs dans toute leur atrocité. Une soif brûlante, l'une des tortures du crucifiement, le dévorait. Il demanda à boire. Il y avait, près de là, un vase plein de la boisson ordinaire des soldats romains, mélange de vinaigre et d'eau, appelé posca. Les soldats devaient porter avec eux leur posca dans toutes les expéditions, au nombre desquelles une exécution était comptée. Un soldat trempa une éponge dans ce breuvage, la mit au bout d'un roseau et la porta aux lèvres de Jésus, qui la suça. Les deux voleurs étaient crucifiés à ses côtés. Les exécuteurs, auxquels on abandonnait l'ordinaire, les menus dépouilles, des suppliciés, tirèrent au sort ses vêtements et, assis au pied de la croix, le gardaient. Selon une tradition, Jésus aurait prononcé cette parole qui fut dans son cœur, sinon sur ses lèvres. « Père, pardonnez-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Un écriteau, suivant la coutume romaine, était attaché au haut de la croix et portait en trois langues, en hébreu, en grec et en latin, « Le roi des Juifs ». Il y avait dans cette rédaction quelque chose de pénible et d'injurieux pour la nation. Les nombreux passants qui la lurent en furent blessés. Les prêtres firent observer à Pilate qu'il fallut adopter une rédaction qui impliqua seulement que Jésus s'était dit roi des Juifs. Mais Pilate, déjà impatienté de cette affaire, refusa de rien changer à ce qui était écrit. Ses disciples avaient fui. Jean, néanmoins, déclare avoir été présent et être resté constamment debout au bout de la croix. On peut affirmer avec plus de certitude que les fidèles amis de Galilée, qui avaient suivi Jésus à Jérusalem et continuaient à le servir, ne l'abandonnèrent pas. Mais Cléophas, Marie de Magdala, Jeanne, femme de Cosa, Salomé, d'autres encore, se tenaient à une certaine distance et ne le quittaient pas des yeux. S'il fallait en croire Jean, Marie, mère de Jésus, eût été aussi au pied de la croix. Et Jésus, voyant réunis sa mère et son disciple chéri, lui dit à l'un, « Voilà ta mère !» Et à l'autre, « Voilà ton fils !» Mais on ne comprendrait pas comment les évangélistes synoptiques, qui nomment les autres femmes, eussent omis celle dont la présence était un trait si frappant. Peut-être même la hauteur extrême du caractère de Jésus ne rend-elle pas un tel attendrissement personnel vraisemblable, au moment où, uniquement préoccupé de son œuvre, il n'existait plus que pour l'humanité. À part ce petit groupe de femmes qui de loin consolait ses regards, Jésus n'avait devant lui que le spectacle de la bassesse humaine ou de sa stupidité. Les passants l'insultaient. Il entendait autour de lui des sottes railleries et ses cris suprêmes de douleur tournés en odieux jeu de mots. Ah, le voilà, disait-on, celui qui s'est appelé fils de Dieu. Que son père, s'il veut, vienne maintenant le délivrer. Il a sauvé les autres, murmurait-on encore. Et il peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël qui descend de la croix, et nous croyons dans lui. Eh bien, disait un troisième, toi qui détruis le temple de Dieu et le rebâti en 3 jours, sauve-toi, voyons. Quelques-uns, vaguement au courant de ces idées apocalyptiques, crurent l'entendre appeler Élie et dire « Voyons si Élie viendra le délivrer !» Il paraît que les deux voleurs crucifiés à ses côtés l'insultaient aussi. Le ciel était sombre, la terre, comme dans tous les environs de Jérusalem, sèche et morne. Un moment, selon certains récits, le cœur lui défaillit. Un nuage lui cacha la face de son père. Il eut une agonie de désespoir, plus cuisante 1000 fois que tous les tourments. Il ne vit que l'ingratitude des hommes. Il se repentit peut-être de souffrir pour une phrase vile, et il s'écria « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais son instinct civil l'emporta encore. À mesure que la vie du corps s'éteignait, son âme se rassérénait et revenait peu à peu à sa céleste origine. Il retrouva le sentiment de sa mission. Il vit dans sa mort le salut du monde. Il perdit de vue le spectacle hideux qui se déroulait à ses pieds, et profondément uni à son père, il commença sur le gibet la vie divine qu'il allait mener dans le cœur de l'humanité pour des siècles infinis. L'atrocité particulière du supplice de la croix était qu'on pouvait vivre 3 et 4 jours dans cet horrible état sur l'escabeau de douleur. L'hémorragie des mains s'arrêtait vite et n'était pas mortelle. La vraie cause de la mort était la position contre nature du corps, laquelle entraînait un trouble affreux dans la circulation, de terribles maux de tête et de cœur, et enfin la rigidité des membres. Les crucifiés de forte complexion ne mouraient que de faim. L'idée même de ce cruel supplice n'était pas de tuer directement le condamné par des lésions déterminées, mais d'exposer l'esclave, cloué par les mains dont il n'avait pas su faire son usage, et de le laisser pourrir sur le bois. L'organisation délicate de Jésus le préserva de cette lente agonie. Tout porte à croire que la rupture instantanée d'un vaisseau au cœur amena pour lui, au bout de 3 heures, une mort subite. Quelques moments avant de rendre l'âme, il avait encore voix forte. Et tout à coup, il poussa un cri terrible, où les uns entendirent « Ô Père, je remets mon esprit entre tes mains !» et que les autres, plus préoccupés de l'accomplissement des prophéties, rendirent par ces mots « Tout est consommé !» Sa tête s'inclina sur sa poitrine et il expira. « Repose maintenant dans ta gloire, noble initiateur. Ton œuvre est achevée, ta divinité fondée. Ne crains plus de voir crouler par une faute l'édifice de tes efforts. Désormais hors des atteintes de la fragilité, tu assisteras du haut de la paix divine aux conséquences infinies de tes actes. Au prix de quelques heures de souffrance que l'on n'a pas même atteint ta grande âme, tu as acheté la plus complète immortalité. Pour des milliers d'années, le monde va relever de toi. Drapeau de nos contradictions, tu seras le signe autour duquel se livrera la plus ardente bataille. 1000 fois plus vivant, 1000 fois plus aimé, depuis ta mort que durant les jours de ton passage ici-bas, tu deviendras à tel point la pierre angulaire de l'humanité qu'arracher ton nom de ce monde serait ébranlé jusqu'au fondement. Entre toi et Dieu, on ne distinguera plus. Pleinement vainqueur de la mort, prends possession de ton royaume, où te suivront par la voie royale que tu as tracée des siècles d'adorateurs.